Cela ne vous a peut-être pas échappé cette semaine, qui a vu l'arrivée de la flamme olympique sur le territoire français, à Marseille, et qui lance en quelque sorte le coup d'envoi pour nous rappeler que d'ici quelques semaines, il va y avoir des centaines d'athlètes qui vont s'affronter avec un seul objectif en tête, la première marche du podium, la médaille d'or. Pour atteindre cet objectif, des heures, des mois et des années d'entraînement, des gestes et des mouvements répétés encore et encore. Ce sont des sacrifices innombrables qui ont été consentis pour réaliser la prestation, la performance parfaite qui les consacrera aux yeux du monde entier. Nous sommes tous en quête de perfection. Même si nous ne nous l'avouons pas toujours, nous voudrions être l'employé parfait, le patron parfait, l'ami parfait, le voisin parfait, le conjoint parfait, le parent parfait, les grands-parents parfaits, le chrétien parfait, le prédicateur parfait, le conducteur, la conductrice de louanges parfaite, pratiquer une hospitalité parfaite, masterchef, des serviteurs parfaits. Et rien que le fait d'être en quête de cela révèle, met en lumière tout simplement nos limites et tout simplement nos imperfections dans chacun de ces domaines. Et concernant Dieu, si nous croyons en son existence, nous avons quelque part cette notion d'un être qui est parfait et que parce que nous ne le sommes pas, cela pose les questions suivantes. Comment entrer en relation avec lui? Comment le faire sans mourir? On va voir dans notre passage de ce matin, où on continue dans notre lettre aux Hébreux, combien ce passage nous révèle trois choses. Tout d'abord, un constat, l'insuffisance des sacrifices d'animaux pour devenir parfaits. La solution, la suffisance du sacrifice de Christ pour nous rendre parfaits. Et finalement, ce qui peut nous donner l'assurance d'avoir été rendu parfait. Alors, je vous invite à lire, on va faire une lecture découpée, on va avancer petit à petit dans ce passage et puis voir ensemble qu'est-ce qu'il signifie. Hébreux chapitre 10, on va regarder donc les versets 1 à 18 ce matin, mais on commence par les versets 1 à 4. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ses réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Si elle l'avait pu, ceux qui participent à ce culte auraient depuis longtemps cessé d'offrir ces sacrifices. Car, purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu la conscience chargée d'aucun péché. Mais en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Je vous invite à faire un voyage plus de 2000 ans en arrière et de vous projeter un petit peu. Peut-être vous pouvez fermer les yeux et imaginer le film. Chaque année, vous êtes là et vous partez en pèlerinage vers Jérusalem. Vous allez être en direction donc du temple et vous marchez, vous cheminez avec tout plein d'autres personnes autour de vous, avec votre mouton accroché à la longe, et vous cheminez. d'imaginer le bruit des bêlements de moutons, de toutes sortes d'animaux qui sont là. Le brouhaha de la foule, joyeuse, mais en même temps, un sentiment un petit peu pesant. Et puis vous approchez, vous arrivez sur Jérusalem et vous avez les odeurs féroces du sang qui coule. La vue de la fumée qui s'élève dans le ciel et les odeurs de barbecue, de viande grillée. Ce que ce Dieu parfait avait prévu dans sa grâce pour être en relation avec son peuple imparfait, c'était cela. Pour ce peuple incapable de vivre pour lui, de lui obéir, Dieu avait prévu des animaux qui mouraient à la place des gens. Mais l'auteur nous dit que ces sacrifices étaient insuffisants. Verset 1, elle, donc là, en parlant de la loi, ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. La mort et donc le sang d'un animal n'avaient pas la capacité à purifier une personne de ses fautes, de ses péchés. Et la preuve de cela, nous dit l'auteur, c'est bien la nécessité de répéter constamment, chaque année, perpétuellement, ces sacrifices. En fait, ce serait un peu comme essayer encore et encore de remplir d'eau un seau percé. Ça ne marche pas. Le fait de constamment devoir rajouter de l'eau nous rappelle qu'il y a quelque chose qui n'est pas parfait. Il y a un problème. C'est inefficace. Mes visites régulières chez le garagiste me rappellent constamment que je n'ai pas la voiture parfaite. Ma fréquentation répétée de la salle de sport manifeste son incapacité à m'offrir un corps parfait, de même que mes rendez-vous répétés chez le médecin me rappellent que je n'ai pas une parfaite santé. Finalement, nous dit l'auteur, tout ce que ces sacrifices faisaient, ce n'était rien d'autre que de rappeler constamment aux gens la présence du péché dans leur vie, qu'ils se souviennent de leur imperfection. Ces sacrifices-là ne libéraient pas leur conscience de leur culpabilité. Ces sacrifices, nous dit l'auteur, n'étaient que l'ombre et pas l'image même de la réalité à venir. Ce système que Dieu avait mis en place était tout simplement temporaire, valable pour un temps seulement. Ceux qui offraient ces sacrifices étaient pardonnés seulement parce que le sang des animaux anticipait, sans qu'ils le sachent vraiment, un autre sang qui serait versé bien plus tard, celui de Jésus-Christ. C'est notre deuxième point, on va continuer la lecture. Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 10. Voilà pourquoi, en entrant dans le monde, Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit « Me voici, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Il commence ainsi par dire « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. » Ensuite, il déclare « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. Voilà ce qui devait encourager les nouveaux disciples de Jésus à abandonner définitivement le système des sacrifices d'animaux. Pour cela, l'auteur cite le psaume 40, qui était initialement écrit par David sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien sûr. Et il applique ces paroles du roi David à Jésus-Christ, des paroles que Jésus lui-même a prononcées, pour montrer comment Jésus est celui qui est venu mettre un terme à ce système temporaire. Comment il est celui dont le sacrifice nous rend parfaits. David, comme Christ, affirme au verset 5 et 6 que ses sacrifices et ses offrandes pour le péché ne sont pas ce en quoi Dieu prend plaisir. Oui, c'était bien ce que Dieu avait institué, verset 8. Mais ce qui réjouit Dieu par-dessus tout, c'est que nous lui offrions notre cœur, que nous lui consacrions notre vie entière, que nous accomplissions sa volonté. Et les sacrifices étaient justement offerts pour couvrir temporairement notre incapacité à mettre en œuvre cette volonté de Dieu, avant bien sûr de proposer une solution supérieure avec le sacrifice de Christ. Et combien ces paroles de Jésus sont libératrices pour nous aujourd'hui. En venant dans notre monde, par son incarnation, Jésus, Dieu fait homme, pleinement homme, pleinement Dieu, est celui qui affirme à notre place, « Tu m'as formé un corps. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Versets 5 et 7. Par sa vie, Jésus accomplit pour nous toute la volonté morale de Dieu. Il vient vivre et mener la vie parfaite que nous devrions mener et à laquelle nous n'arrivons pas. En offrant son corps en sacrifice unique et définitif, Jésus accomplit là aussi pour nous ce qui était la volonté de son Père, d'abolir les sacrifices animaux, verset 9, et de nous purifier une fois pour toutes de tous nos péchés, verset 10, que je relis. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu que nous sommes purifiés du péché grâce au sacrifice de son propre corps que Jésus-Christ a offert une fois pour toutes. Nous sommes purifiés, dit l'auteur. Le temps qu'il utilise ici indique une action acquise, réalisée, mais aussi durable et qui continue constamment dans le temps. Jésus nous offre une perfection totale et définitive devant Dieu. Il s'agit là, bien sûr, d'un nouveau statut, un statut qui est spirituel devant Dieu. Aucun de nos péchés passés, aucun de nos péchés présents et aucun de ceux à venir ne peuvent plus jamais constituer un fossé entre Dieu et moi, entre Dieu et nous. Ce sacrifice parfait accompli par Jésus-Christ lui-même, au travers de son corps, vient combler définitivement ce fossé. C'est la fin de la quête de la perfection, le repos assuré, un casier judiciaire vierge, c'est l'assurance d'être pleinement accepté dans la présence de Dieu. Repensons encore au destinataire de cette lettre qui était tenté de revenir justement. Ils avaient Christ, mais ils étaient tentés de revenir à ces pratiques de l'ancienne alliance. Revenir à ce système de sacrifices animaux alors que nous avons Jésus-Christ. Ce serait quelque part comme continuer à payer le crédit d'une maison alors que celui-ci a déjà été soldé. Inutile. Ce serait comme continuer d'aller se faire vacciner pour se protéger d'une maladie alors que l'antidote nous a déjà été administré. Inutile. Inefficace. Si les destinataires avaient encore quelques doutes par rapport à tout ce développement qu'on regarde dans Hébreux. Les versets 11 à 18, les derniers versets de notre passage ce matin, sont là pour les lever définitivement. On termine donc la lecture, Hébreux chapitre 10, versets 11 à 18. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui, cependant, ne peuvent jamais ôter les péchés. Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il s'est assis à la droite de Dieu, où il attend désormais que ses ennemis soient mis à terre sous ses pieds. Par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté. Car il dit d'abord, « Mais voici quelle alliance je vais conclure avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je placerai mes lois sur leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. » Puis il ajoute, « Je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. » Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. L'auteur va encore utiliser principalement deux arguments pour affermir notre assurance concernant la pleine suffisance, l'efficacité totale du sacrifice accompli par Jésus-Christ. Premier argument, il cite à nouveau un passage de l'Ancien Testament pour montrer qu'il n'y a rien de nouveau, c'était quelque chose que Dieu avait réellement prévu. Il cite le psaume 110 qu'on a déjà vu dans cette lettre aux Hébreux. Et il est en train de dire à ses destinataires, regardez la posture des prêtres et regardez la posture de Jésus-Christ. Les prêtres, eux, ils sont debout. En fait, ils ne pouvaient jamais s'asseoir parce qu'ils n'avaient jamais fini d'offrir des sacrifices. Alors que Christ, lui, est assis. Ce qui signifie que ça y est. Son sacrifice a été offert une fois pour toutes. C'est terminé. C'est la concrétisation du « tout est accompli » de la croix. On a fêté cette semaine l'Ascension, qui célèbre la montée de Jésus auprès du Père et sa cession à la droite, à sa droite, où il attend en toute confiance sa victoire finale sur ses ennemis qui seront placés sous ses pieds. Vous voyez ce contraste entre les prêtres debout, l'agitation constante d'un côté, et le calme, la satisfaction que nous apporte le fait que Christ est assis. Pas de panique, tout est terminé pour celles et ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Deuxième argument, il cite un autre troisième passage de l'Ancien Testament, Jérémie 31, pour souligner non seulement que cette nouvelle alliance avait déjà été annoncée dans l'Ancien Testament, mais aussi pour mettre en avant un des bienfaits, une des bénédictions particulières que celle-ci allait apporter. Verset 17, Dieu qui parle au travers du prophète Jérémie, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. » Un commentateur, un pasteur théologien a dit « Ce n'est jamais une bonne nouvelle pour quelqu'un quand Dieu se souvient de ses péchés. » On peut le voir dans Jérémie 14, verset 10. Ainsi, quand Dieu dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés, il ne parle pas de l'oubli dans le sens courant du terme, mais de la décision de faire grâce et de ne jamais nous traiter selon ce que nous méritons. L'auteur conclut, si ce n'était pas encore assez clair, par ce verset 18. « Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. » J'aimerais nous laisser ce matin avec quelques applications pour nous qui vivons en 2024 avec tellement de distance avec cette ancienne alliance. Ce passage nous dit qu'il n'y a plus besoin de culpabiliser. Parce que Dieu lui-même ne se souvient plus de nos péchés. Nous n'avons pas besoin non plus de les ressasser encore et encore. Nous pensons peut-être trop souvent à notre sainteté progressive, notre sanctification progressive, le fait que, quelque part, nous ne sommes pas encore saints, là où nous devrions peut-être beaucoup plus nous rappeler notre sanctification de position, notre identité en Christ. Nous sommes déjà saints. Et c'est ce que ce passage met en avant ce matin. Demandons au Seigneur de nous aider. On le croit, on le sait, mais demandons-lui de nous aider à nous approprier son pardon et son oubli acquis par le sang de Christ. Il n'y a plus lieu de vivre dans la culpabilité. Il n'y a plus besoin de compenser nos erreurs. Des fois, consciemment ou inconsciemment, nous pensons pouvoir compenser nos erreurs ou nos manquements par une petite dose supplémentaire de spiritualité. Comme si, quelque part, nous pouvions un petit peu nous racheter aux yeux de Dieu ou rééquilibrer un petit peu la balance devant lui. Je n'ai pas eu vraiment une bonne attitude ou de bonnes pensées cette semaine. Alors, je vais passer un peu plus de temps à lire ma Bible et un petit peu plus de temps à prier, ou je vais peut-être un petit peu plus donner dans l'offrande cette semaine. Comme si, quelque part, cela pouvait racheter nos manquements. Reconnaissons simplement nos fautes et là encore, approprions-nous le plein pardon que Christ nous a acquis par son sacrifice unique et suffisant. Plus besoin de prouver notre valeur non plus. Nous n'avons pas besoin de toujours chercher à accomplir quelque chose, de prouver constamment aux autres que nous sommes à la hauteur. Je n'ai pas besoin d'enchaîner les heures supplémentaires pour recevoir des compliments de ma hiérarchie. Je n'ai pas besoin de chercher à présenter aux autres des enfants modèles. Je n'ai pas besoin de chercher à écrire des prédications exceptionnelles dimanche après dimanche. Je n'ai pas besoin de chercher à impressionner mes frères et sœurs par ma manière de prier. Je n'ai pas besoin de chercher à avoir le dernier mot lors d'un malentendu avec quelqu'un. Je n'ai plus besoin de présenter des tablettes abdominales bien dessinées quand j'enlève mon t-shirt au bord de la Drôme. Je n'ai pas besoin de chercher constamment à me justifier. Je n'ai plus besoin de m'agiter, de prouver mes capacités pour chercher à être reconnu. J'ai seulement besoin de me jeter dans les bras pleins de grâce de mon Père Céleste, aux yeux de qui, et cela nous a été rappelé, je suis déjà parfait à cause de la vie, à cause de la mort et à cause de la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Enfin, offrons-nous à Dieu par reconnaissance. Si nous n'avons plus à offrir de sacrifice pour nos péchés, nous sommes par contre encouragés à nous offrir nous-mêmes en sacrifice à Dieu. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, verset 1, nous dit « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, la conséquence, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. » Dans d'autres versions, un culte qui plaît à Dieu. La compassion de Dieu, sa grâce immense manifestée dans le sacrifice de Christ, devrait générer en nous le profond désir de nous donner à Dieu pour le servir. Notre sacrifice vivant ne contribue en rien à notre salut déjà acquis une fois pour toutes. Il manifeste simplement notre profonde reconnaissance et notre envie de suivre notre Sauveur et notre Maître. On peut prendre un temps juste pour penser encore à cela. Et si quelques-uns veulent prier en écho à ce que vous venez d'entendre encore ce matin, sentez-vous la liberté de le faire.